connaissez tous Jacques Brunner.
Oui.
Bon vivant.
Oui.
Oui. C'était des poètes de chez nous. Tous les deux ont écrit la même chose. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. Que Dieu soit au ciel, la Bible nous le dit. Jésus le confirme dans la prière qu'il enseigne aux disciples. Et que les hommes soient sur la terre, c'est évident. Mais ces deux faits-là ont une conséquence. Il nous est dit par la bouche du grand sage, le roi Salomon, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Alors nos deux poètes, peut-être auraient-ils mieux fait de se taire, bien qu'ils ne disent tout haut ce que l'humanité a dit à Dieu depuis très longtemps. Cependant, est-ce votre objectif à vous de rester sur cette terre qui est quelquefois si jolie, mais seulement quelquefois? Dieu a voulu nous donner une autre perspective et Jésus nous a laissé une autre espérance. Il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. » Et Noël, c'est Dieu qui ne reste pas dans son lointain ciel, mais qui vient sur la terre, qui vient parmi nous. On va lire quelques textes. Le premier, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 9. On va lire les trois premiers versets et puis le verset 6. Ésaïe, chapitre 9. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays de Zabulon et de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le peuple des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Et puis au verset 6, le motif de cette réjouissance, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe écrivait ça 700 ans environ avant la naissance de Jésus-Christ. Et cette naissance nous est rapportée dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, on l'a déjà un peu lu ce matin. L'ange leur dit « Ne craignez point », il parle au berger, « car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » C'est ce qui est écrit là. Et un peu plus loin, c'est les bergers qui ont été voir ce petit enfant et qui reviennent. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Alors, dépouillé de tout ce qui est récit concernant les bergers et le bébé dans la mangeoire, ces quelques versets tirés de l'évangile de Luc nous interpellent. Ce qu'annoncent les bergers et que répètent Ce qu'annoncent les anges et que répètent les bergers à leur tour concerne moins l'événement extraordinaire qui a eu lieu cette nuit-là que l'identité du bébé né à Bethléem. L'ange dit de lui, c'est un sauveur, votre sauveur, le Christ, le Seigneur. Et on retrouve, me semble-t-il, le texte du prophète Ésaïe. C'est la même joie qui sera pour tout le peuple, la même raison pour cette joie, un enfant vous est né, et encore un même lien avec David, le grand roi de l'Ancien Testament. Et enfin, quelques-uns des titres qui sont donnés à l'enfant. Alors ce matin, nous allons réfléchir ou essayer de réfléchir à ce texte d'Ésaïe. Réfléchir pour enrichir notre compréhension de la naissance de Jésus à Bethléem. Alors bien sûr, Ésaïe ne voyait pas les circonstances exactes de la naissance du Christ. Il vivait 7 siècles avant. Mais il comprenait que ce serait la seule réponse à l'attente du peuple. Ce peuple de Dieu qui était fortement secoué par les événements de son temps, l'occupation du territoire de Juda, la déportation d'Israël. Pour consoler ce peuple affligé, Dieu accorde à son prophète une vision de son intervention ultime pour rassembler et restaurer ce peuple abattu. Ce message est pour lui une grande espérance face à la pression extérieure des nations ennemies, la fragilisation du peuple d'Israël causée par son infidélité à son Dieu. Avec la promesse de cette nouvelle intervention de Dieu, plus qu'une intervention, un avènement, une présence, Dieu avec nous, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, quelques pages avant le texte que nous avons lu, Ésaïe appelait le reste fidèle du peuple à ne pas sombrer dans le désespoir, mais à espérer, car un enfant nous est né. Ésaïe utilise le temps passé, l'enfant est né. Et pourtant, il parle bien de l'avenir. Et c'est typique du langage des prophètes, convaincu que ce que Dieu dit, il le fera. C'est comme si c'était déjà fait. Ce qui nous est annoncé à Noël comme la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ était pour ce peuple un espoir, un futur dans un moment noir de leur existence. Ils vivaient un temps d'obscurité et d'angoisse. Et si le prophète évoque les territoires de Zabulon, de Naphtali et de Galilée au nord du pays, c'est parce que c'était les premiers territoires à tomber entre les mains de l'ennemi assyrien. C'était une défaite nationale, mais plus que ça, plus que la souffrance de la guerre et du déplacement des populations, c'était une véritable crise spirituelle. Comment Dieu pouvait-il abandonner son peuple, laisser la terre promise à l'ennemi païen, laisser le royaume de David se fragmenter? Et nous savons par ailleurs que ce processus allait se poursuivre avec la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone quelques 150 ans plus tard. Il s'agit bien pour le peuple de l'angoisse de l'abandon de Dieu et aussi l'angoisse de constater l'incapacité de l'humanité à construire un monde meilleur. On le constate encore aujourd'hui, malgré les progrès de l'humanité, ces progrès ne sont finalement que techniques. Et on n'a pas trouvé le moyen d'avoir des lendemains qui chantent. Il n'y a qu'à lire les journaux, regarder les infos pour en être persuadé, si vous ne l'êtes pas encore. On a plutôt l'impression que tout va de mal en pis, que le mal gagne du terrain. Et cette angoisse, c'est peut-être aussi notre angoisse personnelle, ne pas pouvoir remonter à la surface, la crainte d'être abandonné dans notre misère par Dieu. Mais le prophète Ésaïe nous invite à ne pas sombrer, mais à lever la tête. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Et il nous promet la joie. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit au temps de la moisson. Et pour ces peuples qui dépendaient essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et de la terre, la moisson, c'était quelque chose. Et la lumière qui brille dans les ténèbres, la grande joie sera pour tout le peuple. Voici les thèmes incontournables du message des anges aux bergers lors du premier Noël. L'ange dit « Un sauveur est né, qui est le Christ ». C'est-à-dire l'envoyé de Dieu, le Seigneur. Pour Ésaïe aussi, c'était la promesse principale, la source de toute joie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Toute autre raison de se réjouir, la fin de l'oppression, une paix durable, sont subordonnées à cette naissance annoncée. C'est de cet enfant que dépendront la paix, la sécurité, la joie et la lumière pour un peuple craintif et vacillant. L'enfant ne sera pas seulement un héros que Dieu va utiliser pour venir en aide à son peuple, comme dans le passé, mais ce sera son identité même qui sera un sujet de joie. Il y a quelques jours sont nés à Monaco Jacques et Gabriella, prince et princesse. Et c'est seulement dans le cadre de la noblesse qu'on accorde des titres à un enfant. Sinon, tous les autres titres sont accordés en fonction de ce qu'il a fait dans sa vie d'adulte. Et dans le passage qu'on a lu, des titres étonnants sont donnés à un nouveau-né. C'est qui il est qui transforme les ténèbres en lumière et rend la joie au peuple. Car cet enfant qui nous est né est roi, roi dans la lignée de David, le grand roi d'Israël. Cela n'a rien d'étonnant, car à David, Dieu a promis un fils qu'il établira pour toujours dans sa maison et dans son royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Ce qui est plutôt étonnant dans la prophétie de David, c'est l'énumération de ces titres incomparables accordés à cet enfant qui est né. Dans l'Ancien Testament, le roi est toujours très humain et sa force est uniquement de se confier en Dieu, se soumettre à sa parole. C'était les païens qui donnaient à leur roi des titres divins. Le roi était Dieu. Et Ésaïe, c'est un prophète qui, tout au long de son livre, se moque de l'idolâtrie païenne et proclame le règne absolu de l'Éternel, le Seigneur des armées. Comment se fait-il qu'il ose accorder des titres incontestablement divins à cet enfant ? Même royal. De quel autre roi dirait-on conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ? Ésaïe annonce quelque chose d'unique, la naissance de celui qui sera Dieu avec nous, du roi qui incarnera le règne de Dieu, étant lui-même Dieu. Alors voyons de plus près les quelques titres qui sont donnés à cet enfant. Conseiller merveilleux. Le mot merveilleux ou étonnant veut dire surnaturel, qui n'est pas naturel, qui vient de Dieu. Soit le conseiller, soit le conseil qu'il donne. Ce titre nous fait penser à la sagesse. Une sagesse qui dépassera celle de Salomon, roi célèbre lui aussi. Car cet enfant incarnera la sagesse qui ne se trouve qu'en Dieu lui-même. Et on peut faire le lien avec un passage du livre des Proverbes, où la sagesse personnifiée nous parle. Le Seigneur m'a engendré, prémisse de son activité, prémisse de ses œuvres anciennes. J'ai été sacré depuis toujours, dès les origines, dès les premiers temps de la terre. Et des siècles plus tard, l'apôtre Paul dira, il est, en parlant de Jésus, ce petit enfant, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Et il reprenait probablement ce portrait de la sagesse en l'attribuant au Christ. Et puis il est appelé Dieu puissant ou Dieu fort. C'est ainsi qu'est représenté le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, le Saint d'Israël. Il est présenté ici dans le chapitre suivant de celui que nous avons lu, qui parle de celui qui donne la victoire du roi héros sur le plan militaire. Puis il est appelé Père éternel ou Père à jamais. D'abord, l'appellation Père est très peu utilisée dans l'Ancien Testament en parlant des rois. Le plus souvent, il désigne Dieu qui soutient le faible, qui protège son peuple, et qui le discipline aussi, et qui appelle le respect. Et puis cela fait réfléchir un bébé qu'on appelle père. Alors, évidemment, ce n'est pas de son fait, c'est sa nature même qui le fait père. Et l'attribut à jamais éternel, ça se rapporte à Dieu lui-même et à personne d'autre. Puis enfin, prince de la paix. Et ça renvoie au verset précédent et à la promesse de la fin de l'oppression et d'une paix durable. Mais de telles promesses sont subordonnées à l'identité de l'enfant, car il est prince de la paix. Alors il est clair que ce que Ésaïe avait déjà annoncé, la jeune fille sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, prend forme ici avec ces titres donnés à l'enfant. Et c'est cet enfant qui nous est donné. Donné comme un cadeau. C'est cela la grande espérance que le prophète met devant le peuple. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres de son temps, ce peuple faible, abattu, prêt à sombrer dans le désespoir. Et c'est cet enfant qui est Dieu parmi nous, qui est aussi notre espérance. Cet enfant qui est né à Bethléem, couché dans la mangeoire et que l'ange a annoncé, et de qui parlaient les bergers, c'est lui le Christ, le Seigneur, le Sauveur. Le prophète nous prépare pour comprendre toute la portée de cette annonce. Le bébé Jésus est parmi nous, pas le petit Jésus, mais le Dieu sage, le Dieu fort, le Dieu qui est notre Père, le Dieu éternel, le Dieu de la paix. Mais au fait, pourquoi revenons là-dessus encore cette année pour Noël? Les passages que nous avons lus sont lus presque tous les ans, à cette époque, Les hommes n'ont-ils pas compris ce message après 2000 ans? Bien sûr, à travers les siècles, beaucoup l'ont entendu et reçu comme leur grande espérance. Pour beaucoup, le message de l'ange au berger est aussi pour eux lumière et joie qui les fait sortir des ténèbres. Ils ont reconnu en Jésus-Christ, né dans la ville de David, Dieu parmi nous. Mais ce message qui est au cœur de la fête de Noël, qui est la seule vraie raison de se réjouir, et me semble-t-il constamment repoussé, occulté. Comment est-il possible de fêter la nativité sans parler de l'identité du bébé? Une naissance est souvent associée à la joie. Les bergers, les mages sont heureux et nous ferions la fête avec eux sans comprendre pourquoi. Bien sûr, Noël, c'est l'occasion de parler de paix, d'accueil des plus démunis, de bons sentiments. Et tout cela n'est pas sans lien, bien sûr, avec le message de Noël. Mais ce n'est pas le message de l'ange. Ce n'est pas la source d'espérance du prophète. Plus que la paix de la non-violence, plus que la fraternité même, nous avons besoin de savoir que Dieu est avec nous. C'est notre seule espérance réelle. Veillez à ce qu'on ne nous vide pas Noël de son message d'espérance, avec des substituts qui font seulement lui ressembler. Parce que sans cette espérance, où trouvons-nous la force pour travailler pour la paix et la justice dans ce monde? Sans cette espérance, comment leverions-nous la tête au milieu de l'angoisse et des ténèbres? C'est tout le message du prophète. Pour que les ténèbres soient dissipées, que les hommes se réjouissent ensemble devant leur Créateur, Dieu doit venir lui-même pour être leur roi. Nul autre ne suffira. Tous les autres rois, les dirigeants de la terre, les grands de ce monde, même ceux qui sont justes et forts, s'il y en a, ce ne sont que des hommes. Et cependant, c'est en tant qu'homme que Dieu est venu parmi nous, né comme un enfant, comme nous aussi dans sa mort. Parce que notre seul espoir était que Dieu s'approche de nous, parce que nous sommes trop petits, trop faibles, trop misérables pour pouvoir nous approcher de lui. Mais Dieu devenu homme, nous pouvons le connaître. Il peut être le Dieu qui est notre ami, notre face-à-face, notre frère. C'est cela qu'annonce l'ange, que répètent les bergers, et que nous annonçons encore aujourd'hui. Et c'est une bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle. Celui dont nous fêtons la naissance il y a 2000 ans à peu près, et conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Événement passé, il est aussi réalité aujourd'hui et espérance pour l'avenir. Sachant qu'en Jésus-Christ, Dieu est avec nous, qu'il est pour nous, qu'il nous aime et qu'un rien ne pourra nous séparer de son amour. Alors même si Noël n'est que dans une dizaine de jours, ce cadeau que Dieu nous fait en venant sur la terre pour être avec nous, c'est un cadeau permanent, Je suis avec vous tous les jours, dit le Christ. C'est Noël tous les jours. Est-ce que Noël, c'est pour vous tous les jours? À tous, lumière, paix et joie pour aujourd'hui et pour toujours. Amen.